Donc j'ai choisi ce soir d'évoquer le suicide et j'ai intitulé ma communication « Tabou et transgression ultime dans les sources arabes médiévales ». Donc des petites, je dirais, mises au point dès le départ. Tabou et transgression, comme l'a dit le professeur Romer ce matin, dans le cadre de l'islam, ce sont deux mots qui n'existent pas. C'est-à-dire que lorsqu'un chroniqueur, puisqu'il va s'agir en tant que sources arabes de chronique, quand un chroniqueur relate le suicide d'un individu, il n'évoque ni tabou ni transgression, car il n'y a aucun commentaire d'ordre moral. Donc ces deux mots sont bien évidemment exclus. Alors pourquoi le suicide? J'aurais pu choisir d'autres types de transgressions, la consommation d'alcool, de vin, de hashish, ou encore la prostitution, l'homosexualité, mais j'ai choisi un thème qui est commun aux trois monothéismes, le suicide. Tout simplement parce que pour le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est un acte contre nature. Celui qui se tue, quel que soit le moyen utilisé, attend à une vie que Dieu lui a interdit de tuer sans raison valable. Et dans le cadre de l'islam, la vie de l'homme n'est pas sa propriété, car il ne s'est pas créé lui-même. Ce n'est qu'un dépôt que Dieu lui a confié. Alors, toute la question est tout de même la question du suicide, car s'il n'est pas admis par l'islam, les textes ne semblent pas avoir une position ferme sur le sujet. D'après Franz Rosenthal, que je cite, « Le Coran renferme plusieurs passages, sourate 2, versets 51-54, sourate 4, 66-69, sourate 18, versets 5-6, qui pourraient être interprétés, mais en fait ne le sont pas, comme une attitude positive et même indulgente à l'égard du suicide qui n'y est nulle part formellement interdit. Le passage le plus pertinent à cet égard, sourate 4, verset 29-33, « Et ne tuez pas vos âmes » est souvent invoqué comme preuve de la prohibition du suicide par Allah. Le prophète lui-même désapprouvait le suicide et plusieurs hadiths ne laissent aucun doute sur sa condamnation par l'islam. Et je ferme la citation Rosenthal. On trouve cette réprobation tardive du suicide dans les deux autres religions monothéistes, car ni l'Ancien Testament ni le Talmud ne se prononcent fermement contre la mort volontaire, même si ces écrits expriment leur aversion vis-à-vis de cet acte qu'ils jugent répréhensible. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui est basé, j'ai mis sources arabes médiévales, sur cette chronique historique et qui concerne la période mamelouque, plus précisément les années 1468-1516, et j'ai répertorié pour cette période 28 morts volontaires. Alors, période mamelouque, c'est une période qui débute avec 1250, lorsque les mamelouks battent Saint-Louis à la Mansoura, et qui se termine en 1516-1517, les Ottomans conquièrent l'Égypte et la Syrie et s'emparent donc de ces régions. Alors, dans le cadre de cette communication, j'ai divisé ma communication en trois parties, le suicide, les mots pour le dire, le suicide, un tabou, et le suicide, l'ultime transgression. Et tout d'abord, les mots pour le dire, et vous comprendrez pourquoi les auteurs ne commentent pas le suicide. La lecture des chroniques ouvre le champ des discussions linguistiques qui ont une grande importance. Quand on cherche quelques indications sur le suicide dans l'encyclopédie de l'islam, on se réfère à l'article intitulé « Intihar ». Or, les mots « intihar » et « muntahir », qui signifient « suicide » et « suicidé », ne figurent pas dans les chroniques historiques de l'époque médiévale. D'après Franz Rosenthal, le mot « intihar » signifie le fait de se suicider en se perçant ou en se tranchant la gorge, mais précise-t-il à une époque indéterminée. Quant au second « muntahir », suicidé, il est peut-être d'une acception moderne, ce qui expliquerait son absence des textes médiévaux. Alors, le terme intihar évoque une action que l'on peut visualiser. L'individu se tranche ou se perce la gorge. C'est avant tout à une image corporelle, à un acte concret que renvoie ce terme. On estime que c'est probablement avec l'émergence de l'islam que pour évoquer le suicide, les auteurs ont pris l'habitude d'employer une périphrase constituée d'un verbe, généralement « tuer », « katala », auquel on a accolé le mot « âme », « nafs », lui-même suivi d'un pronom affixe masculin ou féminin, pronom indiquant la marque du singulier. En effet, dans les textes que j'ai consultés, le suicide est un acte individuel, on ne trouve aucun suicide collectif et aucune des morts volontaires que j'ai répertoriées ne s'apparente à un suicide héroïque. C'est le verbe employé, suivi de l'expression « son âme », qui indique le mode de suicide. Par exemple, « il s'est tué », katala nafsahu, dans tous les cas avec une arme tranchante. Les autres expressions que j'ai recensées renvoient à la pendaison, à l'action de se trancher la gorge et enfin à celle de se jeter d'un lieu ou dans un lieu. On remarquera l'ambivalence de ces différentes formules qui juxtaposent des verbes évoquant des actions physiques brutales, mettant le corps au premier plan, à cet esprit, j'ai mis le mot entre guillemets, qu'est l'âme. On notera également la violence et la force des images si on les traduit littéralement. Il a tué son âme, il a pendu son âme, il a égorgé son âme et il a jeté son âme. Image qui donne à l'acte une réalité charnelle ainsi que l'implication religieuse qui en découle. On imagine sans peine l'impact de telles formules sur les croyants car elles suggèrent un rejet de l'islam. L'homme non seulement oublie toute humilité, toute modestie, mais en plus il se substitue en quelque sorte à son créateur, en abrégeant volontairement sa vie, alors que cette décision revient à ce dernier et à lui seul. Toutefois, certaines morts volontaires sont suspectes aux yeux des auteurs, et tout particulièrement celles qui sont dues à l'absorption de substances toxiques. Comment savoir si le mort a ingurgité la boisson ou le plat de son plein gré, ou si on l'a empoisonné, et par conséquent si l'on n'a pas affaire à un homicide maquillé. Aussi, l'annonce du suicide est-elle toujours précédée de l'expression « on raconta, wakil », expression qui sous-entend une réserve ou qui du moins indique une certaine prudence de la part du chroniqueur. Alors, le suicide est un tabou, c'est le crime contre soi-même, et il occupe la 29e place dans la classification de l'ouvrage d'Al-Zahabi, intitulé « Kitab el-Kabaïr », c'est-à-dire le livre des péchés majeurs. Comment évoquer un acte considéré comme un péché mortel, condamnant celui qui l'a accompli à la damnation éternelle? Comment aborder un tabou? Que dire sur l'homme et sur l'acte? Mais également sur les motivations, car celui qui se donne la mort transgresse tout à la fois l'islam et l'umma, c'est-à-dire la communauté musulmane. Ainsi que l'a écrit Claude Govard à propos de la société chrétienne occidentale, le suicide provoque un désordre dont la société parvient mal à se remettre. Il est évident que pour la famille, le suicide reste un acte honteux, car bien souvent, il la met directement en cause. Toutefois, doit-on taire le suicide ou, au contraire, doit-on en parler et, dans cette dernière hypothèse, en quels termes? L'infraction relevant de l'intime, les occurrences fluctuent bien évidemment en fonction des auteurs. Si Abdelbassit ibn Khalil mentionne 17 cas alors que sa chronique couvre 24 années, pour sa part, Al-Sahrawi n'en consigne qu'un, pour une durée à peine supérieure, soit 26 années. Par ailleurs, Ibn Yas, qui fut l'élève de Abdelbassit, a amplement puisé dans l'œuvre de son maître pour écrire la sienne, mais curieusement, il n'a pas retenu toutes les morts volontaires qui y sont signalées. Il a opéré une sélection, ne retenant que les personnages importants à ses yeux, trois mamelouks et un administrateur. On observe une attitude similaire chez les auteurs damascains. Si Ibn Tulun, donc pour la même période, recense trois suicides à Damas, Ibn Tawq n'en retient aucun. Néanmoins, les quelques lignes qu'Al-Busrawi consacre en février 1495 à Shams al-Din Mohammad el-Tuluki, grand cadi malékite à Damas, nous amènent à nous demander quelle était la perception que la population, ou du moins certains lettrés, avait de la mort volontaire à la fin du XVe siècle. Ibn Tulouki, qui pratiquait les pots de vin, avait été appelé au Caire par le sultan Caïd Bey et il était emprisonné. D'après les rumeurs, les oulémas, malékites, les savants, estimaient que le Sakadi se trouvait dans une situation vraiment difficile, car il faisait figure de kafir, c'est-à-dire d'incroyant. Trois possibilités s'offraient à lui. Il pouvait enfreindre la folie, se suicider ou se rétracter. Al-Tulouki sera finalement libéré en septembre 1995 et réintégrera le poste de grand cadi malékite à Damas en novembre 1496. Quoi qu'il en soit, le fait que le suicide ait été une des solutions envisagées pour sortir d'une situation apparemment sans issue laisse perplexe et le plus surprenant est sans doute qu'elle ait été énoncée aussi froidement. Mais peut-être cette option était-elle envisageable dans le cas d'un homme soupçonné d'incroyance, que risquait son âme qui était déjà perdue. Si le suicide est assimilé à un délit, les cas de mort volontaire sont bien loin d'être quantitativement aussi importants que d'autres crimes tels que le vol ou l'homicide. Toutefois, les auteurs qui ont choisi d'en parler relatent les faits avec une certaine précision, voire pour certaines affaires avec force détail, ce qui permet d'appréhender les individus, sexe, religion, statut social, de prendre connaissance des causes, dettes, détresse, peur de l'autorité et des modalités, lieux, temps, moyens, mais également de tenter d'analyser leur position lorsqu'ils sont confrontés à cet acte. Par ailleurs, les auteurs ne signalent aucun message laissé par les suicidés pour expliquer leurs actes ou exprimer des sentiments, regrets, amour, envers leurs proches, contrairement à ce qu'affirme Franz Rosenthal pour une période antérieure. Cette assertion, donc laisser des lettres, des messages, sous-entend que les suicidés savaient écrire, ipso facto, que la mort volontaire aurait été l'apanage de personnes instruites, du moins ayant reçu des rudiments d'instruction. Or, pour l'époque mamelouque, il est patent que la grande majorité de la population est analphabète et que de nombreux mamelouks étaient incapables de rédiger en arabe. Qui plus est, qui dit lettre, dit bien souvent préméditation, décision mûrement réfléchie. Quoi qu'il en soit, dans le cas présent, doit-on penser que les auteurs ont volontairement omis de mentionner ces missives et dans l'affirmative, dans quelles intentions ? Alors, le suicide est également l'ultime transgression. Les trois religions monothéistes condamnent le suicide et, dans le cadre de l'islam, celui qui met fin à ses jours, quelles que soient les circonstances, sauf s'il s'agit d'accident ou de folie, se voit refuser l'accès du paradis. Pire, en enfer, il répétera l'acte même par lequel il s'est donné la mort. Ce sera là son châtiment. Par exemple, celui qui se suicide par le feu revivra cette épreuve éternellement. Puisque dans le cadre de l'islam, on ne s'attaque pas, comme dans l'Occident chrétien, au cadavre du suicidé et on ne spolie pas ses biens. Dans la mesure où, je cite, « l'homicide de soi-même tue l'âme en même temps que le corps », le suicide est fondamentalement une faute grave et Muret le qualifie d'ultime défi religieux. Le croyant qui se tue brave insolemment son créateur et cette faute est d'autant plus grave que tout repentir est exclu et pour cause, comme c'est notamment le cas pour l'homicide, la boisson ou encore l'adultère. Il n'y a donc aucune possibilité de rachat. L'état psychologique dans lequel se trouve l'individu l'emporte sur la croyance religieuse. Le châtiment éternel est oublié, occulté. Seul le besoin d'échapper à un état physiquement et moralement insupportable prime. Et le cas du Moukri, Khattab ibn Omar et Shouaiki, constitue un bon exemple. En avril 1501, ce Moukri, donc ce lecteur de Coran, Khattab, est dans un état dépressif et il se pend sur le lieu même où il officie, puisqu'il se pend dans son cabinet particulier, dans la madrassa d'Iyahiyya à Damas. La majorité des suicidés que j'ai répertoriés sont des musulmans, et parmi eux, le lecteur de Coran est un érudit. On lit dans sa biographie qu'il avait une excellente connaissance du Coran et des hadiths, mais également de la langue arabe. En conséquence, il ne pouvait ignorer la signification de l'acte qu'il allait commettre, ni la gravité de la transgression qu'il s'apprêtait à commettre. Alors, on se demande s'il a subi l'influence défendue par un homme de lettres du XIe siècle, plutôt même mort au XIe siècle, Abu Hayyan el-Tawhidi, qui, d'après cet auteur, prêchait le fait que la mort est préférable à une vie imparfaite et vile. Donc on se demande dans son cas. Quoi qu'il en soit, je dirais, cette transgression pose également un problème et crée un problème pour les familles, qui est le problème des funérailles. Le prophète aurait refusé de dire les prières d'usage pour un suicidé. Et cette question des funérailles a donné lieu à de nombreuses discussions. Quel statut accorder au suicidé? Doit-il avoir droit ou non aux prières des funérailles? De manière générale, c'est l'opinion la plus charitable qui a prévalu, même si aucune mention concerne les obsèques des suicidés. Alors, j'ai bien un cas, Ibn Naboulousi, qui a tenté de se suicider en prison en juin 1477, mais pour éviter qu'il ne meure, les autorités qui l'avaient emprisonné, donc à Damas, se sont empressées de le soigner, et cet individu est finalement mort sous les coups. Donc il a échappé au suicide, il est mort sous les coups, peut-être que les blessures qu'il s'était infligées en tentant de se suicider y étaient, je dirais, pour une grande part, mais les autorités n'en ont pas tenu compte. Ce qui veut dire que lorsque son décès a été constaté, on a procédé à la toilette mortuaire, on a ensuite fait la lecture de la prière du défunt à la mosquée des Omeyyades, et puis on l'a enterré au cimetière de Bab Sarir, qui est un cimetière consacré aux musulmans. La procédure aurait-elle été différente si la tentative de suicide avait réussi? L'affirmer est aléatoire, puisque je n'ai aucune, sauf une, cérémonie de funérailles pour les individus qui se sont suicidés. Et justement, le cas d'Ibn Masoud, qui s'est suicidé en 1498, est, je dirais, un problème. Ibn Masoud est un marchand de bois et il a été mis aux arrêts, au Caire, dans la maison de l'oncle maternel du sultan Mohamed, fils de Caïd Bey. Il a été mis en prison tout simplement parce qu'il refusait de verser au sultan la somme d'argent que celui-ci lui réclamait. Il se suicide, nous dit-on, à l'aide de ciseaux de bois, je ne sais pas. Et je ne sais pas du tout quelles sont les parties du corps qui sont atteintes, le chroniqueur ne le dit pas. Informé, le souverain ordonne qu'on l'enterre dans un cimetière chrétien. Son commandement est exécuté. Grand problème est le suivant, quelle était la religion d'Ibn Masoud, musulman, chrétien. On peut envisager la première option. Ibn Masoud est musulman. En se suicidant, il a enfreint la loi. Cette attitude provoque le mépris du souverain, mais également sa colère. Mort, le marchand de bois ne paiera plus la somme réclamée. Nasir Mohamed peut également y voir un mauvais présage, car ce suicide a lieu pendant le mois de Ramadan, qui est le mois sacré, le mois du jeûne. Pour punir post-mortem ce défunt indigne de l'Oumma, on ne l'enterre pas en terre musulmane, mais en terre chrétienne. Seconde possibilité, Ibn Masoud est chrétien. Donc, mettre fin à ses jours pendant le mois de jeûne ne revêt aucune signification particulière aux yeux de l'autorité. Si enterrer un individu hors du cimetière ne semble pas avoir posé de problème majeur en Occident, la situation est différente en terre d'islam. En effet, où ensevelissait-on les chrétiens qui mettaient fin à leurs jours, puisqu'il y avait des cimetières destinés aux chrétiens, aux juifs et aux musulmans, comme aujourd'hui encore. Existait-il des parcelles prévues à cet effet? Des espaces non consacrés dans l'enceinte des morts? Les recueils de topographie et les chroniques nous permettent de connaître la situation géographique des cimetières réservés aux protégés, mais à l'intérieur de ces périmètres, un espace était-il réservé à ceux qui mouraient en état, entre guillemets, de péché mortel, comme c'était le cas dans les cimetières juifs? Si l'incertitude plane sur la confession d'Ibn Masoud, le franc qui s'est pendu en prison était lui bel et bien chrétien, mais qui s'est occupé de ses obsèques et où a-t-il été enterré? Des questions identiques se posent quant au devenir des dépouilles des esclaves, puisqu'on a des cas d'esclaves qui se suicident. Et le cadi El-Razi s'est-il chargé des funérailles de son domestique? De la même manière, qui s'occupait des femmes qui se suicidaient en prison? Des âmes charitables s'occupaient-elles du ramassage des cadavres, de la toilette mortuaire, ainsi que de l'ensevelissement? Donc, en conclusion, la condamnation du suicide est unanime et sans appel pour l'islam, à moins que celui qui attente à ses jours ne soit fou. Pour la période retenue, 20 suicides ont été relevés, et il est difficile de dire si ce chiffre correspond à la réalité. Nul doute que certaines morts volontaires, peut-être en fonction des circonstances ou du procédé utilisé, n'ont pas été identifiées comme telles. Pour les auteurs, évoquer le suicide et le suicidé est difficile. C'est reconnaître implicitement que, quels que soient les motifs, il y a une fracture au sein de l'Oumma. En effet, celui qui met fin à ses jours se condamne lui-même au châtiment éternel. Mais le plus grave est sans doute que cette perspective, dont il a par ailleurs connaissance, ne soit pas dissuasive. Je vous remercie de votre attention.